Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
Vous écoutez Bretagne 5, c'est Bretagne 5 matin, la matinale. Il est 8h30.
Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité ce matin est Yann Hamon. Il est fondateur du collectif Urgence Climatique Armor. Et d'entrée de jeu, je précise que nous ne sommes pas de la même famille. Voilà. Mais il y a beaucoup de Hamon sur l'antenne de Bretagne 5 en ce moment. Bienvenue au micro de la matinale pour parler de climat, d'urgence climatique. On peut reprendre le titre de votre collectif. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots de ce collectif?
Alors c'est un collectif qu'on a fondé, bon je suis un des fondateurs, hein, faut pas exagérer non plus mon rôle là-dedans, un collectif qu'on a fondé au début 2020. L'idée, au départ notre périmètre c'était surtout l'agglomération de Saint-Brieuc, mais on a gardé ce nom Armor pour se dire qu'on pouvait aussi intervenir sur d'autres sujets un petit peu plus lointains, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. L'idée c'est de rassembler un petit peu à la fois des élus, des gens qui viennent du monde politique, mais beaucoup des gens qui viennent du monde associatif aussi. On avait tout un tas de gens en fait qui travaillent autour de l'environnement, tout un tas d'associations. Bon, je ne vais pas toutes les citer, mais voilà, vous en connaissez beaucoup, Vélo Utile, Agir pour le Climat, Extinction Rébellion, etc. Et on a contacté toutes ces associations pour essayer de rassembler un petit peu ces gens qui travaillaient tous, mais parfois sur leur sujet ou parfois de façon un petit peu isolée. L'idée, c'est de les rassembler autour de la thématique du climat, parce que la thématique du climat, elle nous permet de travailler aussi sur la biodiversité, elle nous permet de travailler sur les pollutions en général, sur le changement d'agriculture. Enfin, bon, c'est une politique qui est assez globale finalement. Et voilà, l'idée c'était de ne pas avoir trop de frontières non plus forcément entre les élus, il y en avait quelques-uns au départ du collectif surtout, et le milieu associatif, et de faire du climat quelque chose sur lequel on agisse localement. Parce que très souvent on considère que c'est un problème qui nous est un petit peu extérieur. Il y a des gens qui se disent, bon là le climat, bon, finalement c'est l'État, voire c'est même pas au niveau français, c'est au niveau international. Ben non, le climat, c'est quelque chose, notamment au niveau de l'adaptation, c'est quelque chose qui se travaille au niveau local et qu'on doit anticiper. Voilà, on l'a fait en 2020. Effectivement, cet été assez malheureux 2022 montre bien à quel point c'est nécessaire de se pencher sur cette question. Ça fait en fait 30-40 ans qu'on aura dû se pencher sur cette question. Mais là, maintenant, l'urgence, elle est manifeste et il est temps de réagir et de se pencher plus sérieusement sur le problème. Quoi.
Alors Yann Hamon, vous faisiez allusion à cet été 2022 qui va rester inscrit et on nous promet que c'est pas le plus chaud. On risque d'en avoir des étés comme celui-là bien souvent maintenant. Est-ce que cet été 2022 aura eu au moins, si vous me permettez l'expression, le mérite d'amener une prise de conscience avec les incendies? On l'a vu partout en France, en Bretagne en particulier, les incendies qui ont quand même marqué les esprits, cette vague de chaleur. Est-ce que vous avez ressenti, en allant sur le terrain, que bien, monsieur, madame, tout le monde commençait à avoir une forme de prise de conscience de ce changement climatique qui était très loin finalement?
Alors, il y a sûrement, particulièrement dans des régions comme la nôtre où ça a été une surprise et ça a été dans des proportions auxquelles on s'y attendait pas, il y a certainement une forme de prise de conscience plus importante, c'est une sorte de contagion, donc il y avait un cercle qui était déjà très très conscient du problème, et ce cercle s'étend, et je pense que maintenant il y a très peu de gens qui nient le phénomène complètement. Maintenant, il faut faire attention. D'une part, il faut voir que ça ne soit pas temporaire, c'est-à-dire qu'on va avoir d'autres problèmes cet hiver, on va avoir des problèmes. Alors, si on a des problèmes d'inondation, ça sera aussi lié au climat, ça sera aussi lié au changement, au dérèglement de la pluviométrie, et ça peut vraiment arriver. Mais on peut aussi voir disparaître cette prise de conscience, ou en tout cas l'atténuer si on a, je ne sais pas, des soucis de coupure d'électricité, de choses. Bon,
la vie finalement, reprend le dessus, et on oublie un peu l'essentiel.
Il y a ce risque-là. Il y a ce risque-là. Et vous avez dit qu'on se rappellerait de cet été 2022. Il faut qu'on fasse attention. Hein. Cet été 2022, c'est un prémisse. Et on va vers des étés plus chauds. Ça, c'est parfaitement clair. Le GIEC nous a avertis. Alors, cet été-là, peut-être qu'on s'y attendait pour dans 10 ans. Mais là, vu ce qui vient de se passer, on doit se dire que dans 10 ans, ça sera encore plus chaud. Et encore plus chaud, ça va devenir vraiment très, très difficile. Et ça nécessite des adaptations fortes sur lesquelles il faut se pencher maintenant. Donc, voilà, parce que pour se lancer dans une politique d'adaptation pendant 10 ans, il est temps de s'y mettre.
Alors, il y a un volet politique, il y a un volet social aussi, parce qu'on voit déjà, j'allais presque dire, les premiers réfugiés climatiques. Alors, ils ne viennent pas forcément de loin, ils viennent souvent des métropoles, ils viennent s'installer en Bretagne parce qu'on est une terre tempérée. Bon, là, cet été, c'est peut-être plus forcément vrai avec les températures qu'on a pu enregistrer. Je rappelle qu'on a eu quand même 41 degrés à Saint-Brieuc, hein, dans les Côtes d'Armor. Donc c'est quand même quelque chose qu'on n'avait jamais vu. On a l'impression que souvent l'écologie, c'est un peu le parent pauvre. Alors bon, il y a un peu de buzz autour. Alors est-ce que vous pouvez peut-être essayer de nous dire si vous êtes bien accueillis sur le terrain quand vous faites des actions. Est-ce que les gens, là aussi, sont sensibilisés ou est-ce qu'ils disent, bon, les écolos, voilà.
Alors, globalement, nous, on est plutôt bien accueillis quand on va interpeller les gens sur les marchés, quand on est dans les manifestations. Les gens ont des réactions, même les gens qui sont aux fenêtres sont plutôt positifs. On a croisé des gilets jaunes quand on a fait une marche à Langueux dans la zone commerciale. Et là aussi, finalement, on sentait une sorte de convergence quelque part. Maintenant, il y a des gens, une partie des gens, c'est-à-dire que les décideurs politiques, qu'on agace un peu. Ça, faut être très clair. Le problème, c'est là aussi, c'est cette question de la prise de conscience, c'est là où elle m'interroge, parce qu'il ne faut pas la prendre comme acquise, il faut faire attention. Mm-hmm. Le problème, c'est que tout le monde est favorable. Personne ne souhaite laisser le climat se dégrader. Par contre, c'est quand on rentre dans les mesures concrètes et dans les efforts qui sont à faire, que là, la tendance peut être à demander à l'autre de faire l'effort. Donc celui qui ne veut pas diminuer son utilisation de la voiture ou d'avion va demander au jeune de moins utiliser son téléphone, qui lui va demander à quelqu'un de manger de moins de viande, etc. Non, c'est pas ça, c'est tout en même temps. Voilà. On va
en parler de ces actions concrètes. Il y a aussi des polémiques des fois. Alors, je l'ai pas précisé en commençant cet entretien, mais Yann Hamon, vous avez quelques responsabilités politiques au sein d'Europe Écologie Les Verts, même si c'était pas le propos ce matin. Mais il vous aura pas échappé quand même cette polémique qui s'est fait jour sur les réseaux sociaux il y a quelques jours avec Sandrine Rousseau qui a fustiger un peu les personnes qui font des barbecues. Alors je le dis modestement, j'en fais aussi, hein, des barbecues. Donc est-ce que c'était une maladresse ou est-ce que c'était une forme de provocation pour essayer de faire réagir?
Alors bon, moi je viens pour parler au nom du collectif, donc je vais pas trop détailler sur Sandrine Rousseau, même s'il y aura sûrement des choses à dire, mais ça sera l'occasion d'une autre émission. Ce qu'on peut dire simplement pour faire le lien avec le climat, c'est que notre consommation actuelle de viande, ça il faut bien le comprendre, notre consommation actuelle de viande, elle n'est pas compatible avec un monde vivable, avec un monde avec un climat vivable. Donc voilà, ça, il faut l'entendre. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une polémique comme ça. Mettre le sujet de la viande comme un sujet très important, le mettre au centre du débat, c'est absolument nécessaire d'un point de vue climatique. C'est-à-dire, si on se projette, et c'est ce que les gens ont beaucoup de mal à comprendre, et notamment les politiques qui très facilement vont rentrer dans les polémiques et vont se moquer un petit peu de ce genre de réflexion. Mais en fait, si on se projette en 2050 et vers la neutralité carbone, on doit émettre 2 tonnes de CO2. Et la simple consommation de viande, c'est déjà une tonne et demie selon votre consommation. Bon, là, ça veut dire qu'il va falloir faire des efforts de toute façon. C'est pas d'être contre les barbecues, moi, ça m'arrive de manger un peu de viande aussi. Mais une consommation de viande telle qu'on l'a actuellement, par exemple, comme le député de cette circonscription, Marc Le Fur, que voilà, on va interdire aux maires de faire des repas végétariens. C'est absolument incohérent avec ce qui nous attend, avec les habitudes alimentaires qu'on doit faire prendre aux enfants, etc. Là, il y a vraiment de quoi faire des polémiques sérieuses. C'est-à-dire si on examine les propos et si on examine ce qui nous attend au niveau du climat, il y a un vrai souci. Voilà. Donc, il ne s'agit pas d'être contre la viande ni contre les éleveurs. On y reviendra. Il y a des modes d'élevage qui permettent de capter du carbone. Simplement, la viande telle qu'on la produit actuellement, particulièrement en Bretagne d'ailleurs, eh ben, ça mérite de s'interroger parce que ce n'est pas compatible avec un climat vivable. Voilà.
Alors, vous trouvez la transition toute donnée, Yann Hamon, puisque j'allais vous interroger sur les éleveurs, parce qu'on est une terre d'élevage en Bretagne. Alors, la viande, le cochon, les volailles, par exemple, on voit aujourd'hui de grandes exploitations qui font d'ailleurs, là aussi, qui posent interrogations sur leur gestion, la gestion de l'eau, la gestion aussi du climat, parce qu'on a des exploitation est énorme. Est-ce que ça va être facile de discuter avec les éleveurs, avec les agriculteurs, les jeunes agriculteurs aussi qui reprennent des fermes parfois? Comment essayer de nouer un dialogue? J'imagine que ce n'est pas toujours simple.
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les militants environnementaux n'ont pas de difficultés avec les paysans. Mmh. Et d'ailleurs, ils veulent qu'il y en ait plus. Voilà, donc il y a des collectifs, nous on a quelqu'un dans notre collectif, Daniel Mauduit, que je salue, qui travaille sur la sécurité sociale alimentaire avec la Confédération paysanne. La sécurité sociale alimentaire, c'est l'idée de proposer à chacun un nouveau risque, si vous voulez, une nouvelle branche de sécurité sociale qui permettrait de s'alimenter, d'avoir 150 euros par mois pour s'alimenter avec des produits de qualité. Mmh. Si on installe, alors c'est un projet, c'est pas le projet d'Europe Écologie et Verts pour l'instant, mais c'est un projet très ambitieux qui permettrait de permettre à chacun de se nourrir avec une alimentation de qualité en imposant un certain nombre de contrôles, un cahier des charges, etc. Ça créerait des centaines de milliers d'emplois paysans. Mmh. Mmh. Notre objectif, l'objectif du collectif, c'est d'arriver à une agriculture qui soit un atout pour l'environnement, qui permette de lutter contre le réchauffement climatique, parce qu'il y a un énorme potentiel dans l'agriculture pour lutter contre le réchauffement climatique. Simplement, avec l'agriculture intensive telle qu'on la pratique, avec l'élevage intensif tel qu'on le pratique en Bretagne en ce moment, on fait exactement l'inverse et on épuise la ressource en eau et on abîme le climat. Mmh. Voilà. Donc c'est pas une difficulté, on n'a absolument pas de difficulté avec les éleveurs. On a rencontré des éleveurs là, sur des salons de l'agriculture, des éleveurs qui font de l'élevage extensif sur des prairies. Et bien ces éleveurs-là, ils participent à capter du carbone, mais ils n'ont pas les mêmes rendements. Mmh. Donc c'est là aussi qu'il y a une question d'anticipation. C'est-à-dire que quand on... ce sont les politiques qui se disent pro-élevage en ce moment sont en train de mettre les éleveurs dans des situations qui seront impossibles à court terme. À court terme. Quand on fait des extensions d'élevage jusqu'à 27 000 à l'angoisse, on va mettre cet éleveur dans les difficultés puisqu'il n'aura pas la ressource en eau ou on lui demandera dans quelques temps d'arrêter pour des questions simplement climatiques et des questions en plus de pollution de l'eau. Bon, ça, en Bretagne, on est particulièrement, et dans la baie de Saint-Brieuc, on est particulièrement renseigné là-dessus. Donc, voilà. En fait, les militants environnementaux sont du côté des paysans, il n'y a aucun doute là-dessus.
Je parlais tout à l'heure, en commençant, on en parlait de cette prise de conscience des professionnels, prise de conscience aussi des politiques, bon an, mal an. Le climat, c'était aussi de la politique. Est-ce que, lorsque vous allez sur le terrain, que vous rencontrez des... Alors, on faisait allusion à Marc Le Fur tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le rencontrer, mais est-ce qu'il y a un dialogue qui se noue? Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui passe? Ou est-ce que les positions sont définitivement tranchées?
Avec Marc Le Fur.
Avec Marc Le Fur, par exemple.
Alors, ouais. Là, il faudrait que j'arrive à raccrocher ça avec l'idée de la formation des élus. Mmh. C'est-à-dire que on a une vraie...
Je vous coupe, pardon, mais j'allais y venir parce que là, le président de la République a demandé à ses ministres d'être formés, d'ailleurs, par une scientifique du GIEC.
Alors ça, c'est symptomatique. Voilà. Donc Valérie Masson-Delmotte, qui est une experte climat absolument passionnante, vient former le gouvernement 30 minutes.
C'est un peu court.
C'est extrêmement léger et c'est quand même gâché. Je pense que les ministres pourraient passer une journée, deux journées, je ne sais pas, au moins un après-midi entier à essayer de comprendre comment ça fonctionne. Bon. Vous imaginez, ça c'est le cas pour les ministres, donc il faut redescendre ensuite au niveau des élus locaux. Nous, la première chose qu'on demande, l'une des choses très importantes qu'on demande là, pour le collectif Urgence Climatique Armor, au niveau des élus de Saint-Brieuc agglomération, et au-delà, hein, je pense qu'au niveau du conseil départemental, il y a beaucoup de travail à faire aussi, c'est déjà d'avoir une formation sur ce que c'est que le réchauffement climatique, comment ça s'accélère, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre, qu'est-ce que ça veut dire la neutralité carbone en 2050, puisqu'on a affiché des objectifs comme ça, moins 40% d'émissions en 2030, comment on fait ? La neutralité carbone en 2050, comment on fait ? Il y a des choix politiques, il y a des choix démocratiques à faire, mais il faut quand même vraiment se poser la question. Et ben ensuite, pour en arriver à Marc Le Fur, donc Marc Le Fur... c'est quelqu'un qui veut en même temps arrêter les éoliennes, continuer à subventionner le gasoil et continuer à manger autant de viande. Bon, si vous m'expliquez qu'on peut faire ça et être à la neutralité carbone, c'est absolument formidable. C'est pas en faisant simplement du nucléaire dans 15 ans qu'on va régler, qu'on va baisser de 40% nos émissions en 2030. Donc là, on a soit de la malhonnêteté, soit un problème de formation. Je pense que dans ce cas, et il y a bien d'autres élus locaux, Marc Le Fur, c'est particulièrement visible parce qu'il tient un discours parfois climato-sceptique, mais ici, on a quelqu'un vraiment qui n'est pas adapté au monde d'aujourd'hui, qui n'a pas la formation nécessaire pour traiter les problèmes du climat, quoi.
Alors, le climat, c'est monsieur, madame, tout le monde. Vous le disiez tout à l'heure, Yann Hamon, on demande souvent à l'autre de faire ce qu'on ne veut pas faire. C'est aussi les transports, et c'est aussi les plus précaires. Alors, pour les transports, en Bretagne, aujourd'hui, on parlait du train ce matin sur notre antenne avec la ligne Morlaix-Roscoff. Il y a une volonté de la région Bretagne de vouloir beaucoup miser sur le train, mais forcément, ce n'est pas encore assez. Est-ce qu'il va falloir... là aussi, avoir une politique volontariste de développement des transports en commun à tout niveau. Hein. Et puis, penser à ceux aussi qui, parfois, ne peuvent pas faire de vélo dans les villes, parce qu'il y a des personnes à mobilité réduite ou des anciennes personnes qui ne peuvent pas faire de vélo. Est-ce que il va falloir imaginer le futur du transport? Est-ce qu'il va falloir mettre les jeunes cerveaux à travailler là-dessus?
Alors oui, et, évidemment, il y a une très très grande transition à faire au niveau du transport. Alors, il faut prendre déjà le problème à la source, et c'est ce qu'on disait aussi dans le collectif dès le départ. En ce moment, on est en train de travailler sur la question du schéma de cohérence territoriale, donc sur des questions d'urbanisation, d'aménagement du territoire. Ça part de là, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on aille vers une réduction du besoin en transport. On ne peut plus continuer à faire des logements qui sont éloignés des lieux de travail. Donc on peut avoir des gens dans les campagnes, mais qui travaillent à la campagne. C'est pour ça qu'on dit on veut plus de paysans. Mmh. On peut avoir tout à fait aussi des gens éventuellement dans la campagne qui font du télétravail.
Mais avoir des gens... Ça s'est développé avec la crise du Covid, entre autres.
Un peu, et je pense que peut-être cet hiver, on va le revoir. Mais très vite, les entreprises sont revenues en arrière. Non, je pense ce serait souhaitable qu'on aille vers un développement du télétravail dans les entreprises, dans les administrations, parce qu'évidemment, là, on fait des énormes économies en termes de transport. Bon. Donc, il y a cette question de l'aménagement du territoire qui est fondamentale. Il y a un petit peu de projection, d'anticipation à faire dans l'avenir. On sait qu'on a une très grosse difficulté en Bretagne, hein, c'est les deux gros piliers sur lesquels on peut vraiment faire des économies, c'est l'agriculture et le transport. Mmh. Bon, on a un développement qui est toujours fait sur le réseau routier, c'est particulièrement vrai dans les Côtes-d'Armor. Là, on est encore en train de faire des projets d'anticipation, de rocade pour dans 2030-2035. Est-ce que c'est très sérieux alors qu'on sait qu'on va devoir diminuer le nombre de voitures? Est-ce qu'on ne peut pas mettre l'argent ailleurs, effectivement, dans les trains, dans les pistes cyclables? Ça veut dire aussi refaire des logements, réhabiliter des logements plutôt dans les centres-villes, plutôt dans les agglomérations près des lieux d'emploi. Voilà. Donc il y a toute une politique d'ensemble à faire qui nécessite une anticipation à 10, à 15, à 20 ans et qui n'est pas toujours faite. Parce que la facilité, c'est de continuer dans le modèle dans lequel on s'est développé. Donc on fait des rocades, on fait des zones commerciales autour des ronds-points, ça marche très bien, ça fait de la croissance économique. Sauf que si cette croissance n'est pas soutenable, c'est pas une croissance qu'on va avoir, c'est un effondrement brutal, c'est une sobriété, en tout cas, qui sera imposée, une décroissance qui sera imposée. Il vaut mieux peut-être essayer d'avoir une décroissance énergétique qui soit contrôlée et qu'on choisisse, quoi.
Alors, je parlais des plus précaires. Souvent, ils ont des difficultés à se déplacer, des difficultés à se loger, ou alors lorsqu'ils sont dans des logements, souvent les personnes ou les familles dans la précarité ou vraiment à la limite du seuil de pauvreté se retrouvent dans des logements qui sont des passoires énergétiques avec différentes difficultés. Est-ce qu'il faut inclure dans cette projection, dans cette prospection du futur et de l'écologie et du développement durable, ces bâtiments, est-ce qu'il faut donner un coup de main à ces personnes pour pouvoir réhabiliter leurs bâtiments? Parce que ça coûte cher, forcément.
Ah bah oui, donc, quand on a des bailleurs publics, évidemment, déjà le travail est un peu fait, mais il faut absolument accélérer ça. De toute façon, vous n'aurez pas de transition écologique, et ça, on est parfaitement clair là-dessus, hein, dans le collectif, sans justice sociale. Donc évidemment, ce n'est pas aux plus précaires, à ceux qui sont plus en difficulté, de payer, de toute façon, ils n'en auront pas les moyens, de payer le coût de la transition écologique. Ça veut dire qu'il y aura nécessairement un investissement à faire. Et ça, c'est peut-être le plus facile, d'ailleurs, et c'est dommage que ça n'ait pas été fait avant, parce que ce n'est pas une perte de confort, ce n'est pas un changement d'habitude, ce n'est que de l'investissement, et c'est même pas de l'argent qui va coûter à la nation, puisque ça fait finalement des économies d'énergie, donc des économies de gaz, de pétrole, qu'on importe. Donc, à moyen terme, c'est un gain économique pour tout le monde, et un gain de confort. Et malheureusement, ça fait des années qu'on le sait, et on a beaucoup de mal à déployer cette politique, aussi pour des questions un petit peu de formation, c'est-à-dire qu'on n'a même pas la main-d'œuvre formée pour faire tout ça. Et puis des questions de budget et de priorité budgétaire. Bon, mais ça, voilà. Ça dépasse ça, le champ, on ne met pas ça sur le dos des politiques locaux. Mais par contre, les politiques locaux ne le font pas déjà parfois dans leurs écoles. On a un certain nombre d'écoles qui sont actuellement des passoires thermiques, il faut le dire. Et là, c'est absolument inacceptable. On va arriver à des périodes caniculaires en juin, en septembre. C'est absolument nécessaire que les administrations fassent mettre le paquet sur ce sujet-là. Ça devrait être quelque chose d'absolument prioritaire.
Alors, la politique mondiale, la géopolitique s'invite aussi dans le débat. Une guerre s'est déclenchée en Europe. On a toujours peine à le dire, finalement, même devant un micro. Cette guerre en Ukraine qui a des conséquences hein, sur nos approvisionnements en gaz et peut-être même des conséquences cet hiver avec des coupures d'électricité qui se combinent aussi avec l'arrêt des réacteurs nucléaires. Alors, on va pouvoir parler de l'énergie, évidemment. Est-ce qu'on a été imprudent toutes ces années, ces dernières années, d'importer du gaz, de ne pas avoir finalement une forme d'autonomie énergétique?
Voilà, pour accrocher vraiment sur les questions de climat et ce que porte le collectif, en fait, là, notre dépendance au gaz, bah, c'est un symptôme du fait qu'on n'arrive pas à se débarrasser finalement de ces énergies fossiles, dont on sait pourtant qu'elles empoisonnent le climat et dont on sait qu'on va devoir se passer. Donc là, se retrouver dans cette situation en 2022, c'est quand même assez fou. Hein, c'est-à-dire que ça fait des années qu'on aurait pu développer le renouvelable et refaire les logements, comme on l'a dit, essayer d'avoir une politique de transport qui soit plus sobre, etc., etc. Travailler sur l'agriculture avec un modèle moins intensif qui demande moins d'engrais, parce que ça, c'est les engrais, c'est très consommateur de gaz aussi. Bon, on ne l'a pas fait. Donc on se retrouve maintenant dans les mains de Poutine, un peu moins en France qu'ailleurs, mais on voit que compter sur la filière nucléaire, c'est quand même assez optimiste, puisque finalement, elle n'est pas en très bon état et que ce n'est pas une énergie très intermittente, finalement. Et donc, ces politiques, ce qui va nous arriver cet hiver et cette sobriété forcée, c'est la conséquence aussi du manque d'anticipation et du manque d'attendre la bascule. En fait, on attend pour basculer, comme on le dit, on attend d'y être complètement forcé. Et donc, on va avoir, c'est ça, au pied du mur. Et là, on demande aux entreprises, en un an, de baisser de 10% leur utilisation d'énergie. Bon, si on avait pu faire plutôt 3 ou 4% tous les ans depuis 10 ans, eh ben, on n'aurait pas de problème de gaz.
Voilà, ça aurait été peut-être aussi moins brutal pour le secteur industriel en particulier.
Oui, et puis, on peut se demander si c'est à l'échelle de l'Europe, on avait fait toute cette politique, est-ce que Vladimir Poutine aura les mêmes moyens de pression qu'il a maintenant? Bon, on est un peu loin de ce que parle le collectif, mais il y a quand même un lien. Hein, évidemment, tous ces sujets. Ouais,
c'est une répercussion finalement dans la vie de tous les jours.
Bien sûr.
Voilà. Alors là, on a été un peu pessimiste. Il nous reste 3 minutes. On a été un peu pessimiste. On va donner quand même une petite éclaircie dans ce tableau qui est pas réjouissant, il faut bien le dire. Vous, au sein du collectif, vous apportez une réflexion, des solutions aussi. Est-ce qu'à un moment, j'allais dire la jeune génération, je parle beaucoup de cette jeune génération au micro de Bretagne 5 parce que voilà, elle arrive, elle a des aspirations, elle ne vit pas comme la génération précédente, et j'en fais partie de cette génération précédente. Justement, est-ce qu'on peut s'appuyer sur, cette jeune génération pour envisager le futur, pour peut-être avoir un futur nettement meilleur que ce que l'on va laisser, nous, la génération précédente?
Alors, un futur meilleur, ça dépend quelles normes on fixe. En fait, il faut qu'on change nos indicateurs. Et qu'on ne considère plus que la croissance matérielle et la croissance énergétique, c'est absolument la clé du bonheur. Et je pense qu'une bonne partie des jeunes, c'est ça qui est intéressant, et peut-être de plus en plus, est dans cette dynamique-là. On a vu des démissions, par exemple, d'ingénieurs à AgroParisTech qui laissaient tout tomber pour faire autre chose, qui ne souhaitent plus accumuler de l'argent. Et cette tendance-là, elle est assez forte chez les jeunes. Donc une fois qu'on sera sorti de ce désir de consommation, il y a une réflexion culturelle à mener. Eh ben, on peut créer un monde, peut-être, où on aura plus d'attention pour le vivant, où on sera dans un désir, finalement, de création de liens sociaux, de liens culturels. On donnera la priorité à l'éducation, à la santé, au bien-être animal. Et finalement, avoir un peu moins de voitures, moins prendre l'avion, mais plutôt visiter la Bretagne autour. Manger un peu moins de viande, ce qui n'empêche pas de faire un barbecue de temps en temps.
Mais
c'est possible, mais voyez, on peut faire aussi moitié brochette, moitié tofu. C'est déjà, on aura fait, et si on le fait deux fois moins souvent, on aura divisé par 4 notre consommation de viande, on sera pas si mal. Et il y a moyen, avec du vin bio, pourquoi pas, mais avec modération, de trouver des moments de bonheur. Le bonheur n'est pas dans la poursuite absolue de la consommation et de la consommation effrénée. On n'a pas l'impression d'ailleurs que l'accumulation apporte énormément de satisfaction aux gens. On n'a pas des gens en ce moment, on n'a jamais eu un PIB par habitant aussi haut, ou à peu de choses près. Et ce n'est pas forcément la période où on sent les Français le plus heureux. Donc il faut peut-être aussi simplement bifurquer et puis comprendre qu'on peut construire un monde différent.
Alors il nous reste, allez, 30 secondes. Petite, alors quand je dis petite, c'est absolument pas péjoratif dans ma bouche. Petites initiatives au niveau local, régional, il va en falloir beaucoup dans ce grand monde que nous habitons et dans des pays qui sont pas forcément ouverts à l'écologie pour faire bouger les choses. Est-ce que toutes ces petites initiatives, à un moment ou à un autre, il faudra les relier entre elles? Est-ce que le collectif, par exemple, parle avec d'autres collectifs dans d'autres pays européens ou même extra-européens?
Alors on n'en est pas là. Je crois que c'est très important que chacun puisse agir déjà à son échelle et que voilà, on prenne les choses agglomération par agglomération, et puis une agglomération faisant basculer le département vers une pratique plus écologique, puis la région, etc. Et on part sur une contagion comme ça. De toute façon, il y a plein de gens qui se mobilisent, et se mobiliser sur des projets concrets, obtenir des petites victoires, obtenir par exemple qu'on ne construise pas une ferme à saumon à Plouisy qui mangerait 600 mètres cubes d'eau tous les jours. Donc, voilà, on voit bien que dans un territoire qui est extrêmement menacé par la sécheresse. Bon, ce sont des choses concrètes, et il faut des victoires concrètes pour continuer à donner justement le moral aux jeunes, comme vous l'avez dit tout à l'heure.
Voilà, alors l'entreprise est de longue haleine, et vous viendrez à nouveau, Yann Hamon, nous en parler évidemment au micro de Bretagne 5. On fait des efforts, nous, pour éteindre les lumières et ne pas avoir une consommation en énergie, parce que la radio, c'est gourmand en énergie. Et on éteint les serveurs, on a même des serveurs verts. Voilà, vous allez tout savoir. Il est 8h56, merci d'avoir été avec nous, Yann Hamon. Je rappelle que vous êtes fondateur du collectif Urgence Climatique Armor. Et dans urgence, il y a vraiment urgence en ce moment. Et vous viendrez évidemment nous faire part de l'évolution et de tout ce qui se passe. Parce qu'il se passe de bonnes choses et il faut le dire, il faut les mettre en avant. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Bonne journée.
Merci.
Bretagne 5 Matin, Stéphane Hamon. Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.